de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques éléments à informer, entre autres. Chine propose une coopération militaire plus étroite avec le Vietnam. Le roi de Jordanie a souligné sa position de protéger le peuple palestinien. Pèlerins du monde entier affluent vers Padang Arafah en Arabie Saoudite. Le ministère de la Défense de la République d'Indonésie a signé un contrat de vente et d'achat avec l'industrie SA. Jokowi a lancé un programme visant à mettre en œuvre des recommandations pour des règlements non judiciaires de violations flagrantes des droits de l'homme en Indonésie. Décision de mettre fin à la visite sans visa et temporaire. Gouvernement de Blitong implique les MPME dans le forum de l'économie bleue de l'ASEAN. Mon cher auditeur, voici les nouvelles en complet. La Chine a proposé une coopération plus étroite avec le Vietnam pour renforcer les communications et la coopération de haut niveau entre les armées des deux pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre chinois de la Défense Li Shangfu, lors d'une réunion bilatérale avec le ministre vietnamien de la Défense à Pékin, le mardi 27 juin 2023. Li a déclaré que la situation internationale était chaotique et interconnectée et que la sécurité de la région Asie-Pacifique était confrontée à des défis. La rencontre de Li et Fan a eu lieu après que le porteur avions américains USS Ronald Reagan a accosté dimanche au port de Da Nang au Vietnam. La visite navale américaine intervient au milieu des tensions entre la Chine et les États-Unis en mer de Chine méridionale. La Chine revendique la majeure partie de la mer de Chine méridionale à travers laquelle transitent chaque année 3 billions de dollars américains des commerces internationaux et on pense qu'elle possède un potentiel énergétique tel que de riches réserves de minéraux, de pétrole et de gaz. Le roi Abdallah II de Jordanie a réaffirmé sa position de protéger le peuple palestinien et de lutter contre les conspirations. S'adressant aux responsables jordaniens lundi heure locale, le roi Abdallah a déclaré que la Jordanie continuerait d'être aux côtés du peuple palestinien en l'aidant et en le protégeant. La Jordanie fera tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre toute conspiration contre la Palestine et les lieux saints des musulmans et des chrétiens dans Jérusalem-Est occupée. La Jordanie est le gardien des lieux saints musulmans et chrétiens de Jérusalem depuis 1924 et s'est connu comme le gardien des lieux saints de Jérusalem. Des pèlerins du monde entier ont commencé à affluer à Padang Arafat en Arabie Saoudite pour subir la série de pointes du pèlerinage, qui commence par le rituel de se tenir début à Arafat le mardi 9 Zulhijja 1444 Hijriya, ou 27 juin 2023. Basé sur le canal d'information Antara, à Padang Arafat mardi, les participants au culte se sont pressés dans une vaste zone à l'est de la Mecque et leur nombre est estimé à des centaines de milliers de personnes. De nombreux membres de la future congrégation du Hajj s'abritent du soleil dans des tentes de fortune en attendant que le wukouf ait lieu. Un certain nombre d'ambulances ont été vus stationner en plusieurs points de Padang Arafat. Le ministère de la Défense a signé un contrat de vente et d'achat avec l'industrie SA pour l'acquisition de 13 unités du système radar d'interception des contrôles au sol GCI GM403 de Thal, France. Une déclaration écrite du ministère de la Défense citée par CNN Indonésie mardi 27 juin a déclaré que la coopération avait été signée par le directeur principal de l'industrie, Bobby Rachidine, et le vice-président senior Amérique latine et Asie de Thales International, SAS, Guy Bonassi, en France récemment. Il a été déclaré que l'achat du radar impliquant l'industrie SA devait accroître la capacité de l'industrie de la défense nationale, augmenter les opportunités d'emploi local et contribuer à la croissance économique nationale. Le président Joko Widodo a lancé un programme visant à mettre en œuvre des recommandations pour des règlements non judiciaires des violations flagrantes des droits de l'homme en Indonésie. Le président Joko Widodo a pidi Aceh a déclaré mardi 27 juin 2023 que cet événement vise à panser leurs blessures de la nation dues aux violations flagrantes des droits de l'homme dans le passé. Le président Joko Widodo a également demandé que les blessures des victimes de violations flagrantes des droits de l'homme passées soient pansées. C'est pour que l'Indonésie puisse aller de l'avant, le président Joko Widodo a expliqué qu'au début du mois de janvier, il avait décidé que le gouvernement poursuivrait un règlement non judiciaire axé sur la réalisation des droits des victimes sans nier les mécanismes judiciaires. Il est également reconnaissant qu'aujourd'hui, mardi 27 juin, sa politique ait commencé à se réaliser. La jointe à la politique stratégique au ministère du Tourisme et de l'Économie créative, Nia Niscaya, a déclaré la décision de mettre fin aux visites sans visa par le ministère du Droit et des Droits de l'Homme est temporaire. Nia Niscaya, dans sa déclaration officielle de Jakarta mardi, a expliqué que cette politique est temporaire et sera étudiée plus en profondeur par des parties liées telles que le ministère des Droits et des Droits de l'Homme. Selon Nia, le ministère du Tourisme et de l'Économie créative est toujours prêt à aider et à collaborer avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Droit et des Droits de l'Homme si un soutien est nécessaire pour des idées et des suggestions sur l'évaluation de la politique des visites sans visa pour les étrangers. Elle espère que si l'exemption de visa est rétablie plus tard, l'Indonésie devra au moins répondre à trois critères, à savoir l'aspect réciproque. Puis, la politique sera accordée aux pays qui apporteront des avantages à l'Indonésie et afin de prêter attention à l'aspect sécuritaire. Auparavant, le ministère des Droits et des Droits de l'Homme avait mis en œuvre une politique consistant à accorder des facilités de visite sans visa uniquement à 10 pays membres de l'ASEAN et un visa à l'arrivée, VOA, dans 92 pays. Le gouvernement à Blitung, province des îles Bangka Blitung, a impliqué des dizaines de micro, petites et moyennes entreprises, PME, dans le forum de l'économie bleue de l'ASEAN du 1er au 4 juillet 2023. C'est ce qu'a déclaré le vice-régent de Blitung, Ishak Merobi, à Tanjung Pandan lundi, après avoir présidé la réunion finale des préparatifs de la mise en œuvre du forum de l'économie bleue de l'ASEAN à Blitung. Selon Ishak Merobi, le Forum de l'économie bleue de l'ASEAN est une opportunité pour les PME de la région de promouvoir leurs produits. Il a invité la communauté de Blitung à apporter son soutien afin que l'activité se déroule sans heurts. Mon cher Jetar, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le commentaire d'aujourd'hui intitulé « Programme de rétablissement des droits des victimes, de graves violations, des droits de l'homme, guérir les blessures de la nation ». Vous êtes avec moi Audrey. Le gouvernement indonésien a l'intention de résoudre les violations flagrantes des droits de l'homme qui se sont déroulées dans le passé sur la recommandation de l'équipe pour la résolution non judiciaire des violations graves des droits de l'homme, PPHAM. Le président Joko Widodo a souligné cette intention sincère lors de la transmission des directives lors du lancement du programme de mise en œuvre des recommandations du PPHAM sur l'ancien site de l'incident de Rumah Gedong, Pidi Aceh, mardi 27 juin. Le président Joko Widodo a déclaré que le programme visant à restaurer les droits des victimes de violations flagrantes des droits humains vise à panser les blessures de la nation suite à des violations flagrantes des droits humains passés. Selon le président, la blessure a laissé un lourd fardeau sur la victime et sa famille. Auparavant, le 11 janvier 2023, le président Joko Widodo avait déclaré que le gouvernement indonésien reconnaissait qu'il y avait eu 12 violations flagrantes des droits de l'homme, dont l'incident de 1965-1966. l'incident de tir mystérieux de 1982-1985, l'incident de Talansari à Lampung en 1989, l'incident de Rumoh-Gedan et le poste de Satis à Aceh en 1989. Les incidents de disparition forcée de personnes de 1997-1998, les émeutes de mai 1998 et l'incident de Wamena, Papoua en 2003. On ne peut pas le nier, beaucoup espèrent que le règlement des violations flagrantes des droits de l'homme se fera par la voie judiciaire. Citant un rapport de Compass.id 5 juin basé sur un sondage Compass, 59,7% des personnes interrogées ont déclaré que le gouvernement n'avait pas tenté de règlement par voie judiciaire pour les victimes ou leurs familles. Cet espoir est bien sûr très raisonnable car il y a des victimes de violations des droits de l'homme qui sont souvent soupçonnées d'en être les autres et avec leurs familles qui sont stigmatisées socialement. En effet, réaliser les espoirs des victimes d'obtenir justice demanderait un long processus et du temps. Le chef de l'État a reconnu que le processus de règlement non judiciaire des violations flagrantes des droits de l'homme en Indonésie nécessitait un long et très long processus. Espérons que les règlement non judiciaire de ces violations flagrantes des droits de l'homme ouvrira la porte à un règlement judiciaire. Comme l'a déclaré le président Joko Widodo, aucun processus n'est perdu. On espère que le démarrage de ce bon processus ouvrira la voie à des efforts pour panser les plaies existantes. Le début du développement d'une vie juste, pacifique et prospère, sur la base de la protection et du respect des droits de l'homme et de l'humanité. Espérons qu'il n'y aura plus de violations flagrantes des droits de l'homme en Indonésie. La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement. Dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Bonsoir, c'est Zurita. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 28 juin 1914. L'archiduc François Ferdinand d'Autriche et sa femme Sophie ont été abattus. L'archiduc François Ferdinand et sa femme Sophie ont été abattus par un nationaliste serbe de Bosnie lors d'une visite officielle dans la capitale bosniaque Sarajevo le 28 juin 1914. L'archiduc François Ferdinand est l'héritier du trône austro-hongroise. Sa femme Sophie et lui ont été tués à Sarajevo, la capitale de la province austro-hongroise de Bosnie-Herzégovine, où cela a finalement conduit au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Passons maintenant à l'événement du 28 juin 1944, le massacre de Mandok s'est produit à Kalimantan occidentale. Le massacre de Mandok a eu lieu le 28 juin 1944 dans la région de Mandok, la région de Landang, Kalimantan occidentale. Les auteurs étaient la marine japonaise qui soupçonnait l'existence de la rébellion d'intellectuels, de fonctionnaires, de politiciens, de chefs communautaires, de chefs religieux et au retour hier de diverses ethnies et religions. Les arrestations ont eu lieu du septembre 1943 au début 1944. Selon les données disponibles, le nombre de victimes du massacre de Mandok était plus de 21 000 personnes. Cependant, la partie japonaise a rejeté cette déclaration et a estimé qu'il n'y avait que 1 000 victimes. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 28 juin 1965, le journal national Compass est né. Le quotidien Compass était fondé par Petrus Canisius, P.K. Ojong et Jacob Utama. Initialement, ce quotidien a été proposé que le quotidien s'appelle Bentara Rakyat en accord avec le nom de la fondation qui l'a fondé. Cependant, le premier président de l'Indonésie, Sukarno, a proposé le nom de Compass ou en français Boussole. Le quotidien Compass a été publié le 28 juin 1965 à Jakarta. C'est Jurita, c'était l'histoire de Jokli pour ce soir.
Sejak saat pertama melihat senyumannya, jantung berdebar-debar, inikah pertama? Namun ternyata salah, harapanku pun musnah. Sejak aku melihat kau selalu dengannya, Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang ku harus pergi untuk melupakannya. Dalam hati berkata takkan sanggup pergi. Oh, oh, oh Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang dia ada yang punya. Memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang gak ada yang punya. Tuhan tolong, tolong aku jatuh cinta pada kekasih orang. Ingin lupa ku tak bisa, sayang-sayang gak ada yang punya. Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et en pour le titre, le flux des capitaux étrangers vers l'Indonésie reste fort malgré une économie mondiale incertaine. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que le flux des capitaux étrangers vers l'Indonésie restait fort, même si l'économie mondiale était incertaine et la tendance à la hausse des taux d'intérêt dans les pays développés, y compris le taux d'intérêt de la Réserve fédérale ou la Fed. Citant un rapport d'Antara, dans la conférence de presse en ligne sur le budget de l'État KITA édition juin 2023, lundi 26 juin, Sri Mulyani a déclaré que dans des conditions mondiales si incertaines, l'Indonésie est un pays qui est toujours l'un des endroits considérés comme stable, positif et même la croissance est très impressionnante. Le ministère des Finances a noté que les capitaux étrangers entrant sur le marché obligatoire indonésien ont atteint 80,79 billions de roupies depuis le début de l'année ou YTD au 21 juin 2023. Les flux de capitaux étrangers en mai 2023 ont été enregistrés à 6,67 billions de roupies. La réalisation des flux de capitaux étrangers en juin 2023 a bondi à 13,62 billions de roupies depuis le début du mois au cumul mensuel. Pour le marché boursier, les entrées de capitaux étrangers ont été enregistrées à 16,87 billions de roupies. Cependant, sur une base mensuelle, il y a une sortie de capitaux de 3,71 billions de roupies. D'autre part, même si la part des investisseurs étrangers dans les titres publics ou SBN a légèrement augmenté, le ministère des Finances a noté que les investisseurs bancaires et de la Banque Indonésie, BI, étaient toujours dominants. La propriété des investisseurs étrangers en titres d'État au 21 juin 2023 a été enregistrée à 15,45%. Pendant ce temps, la propriété bancaire de SBN a été enregistrée à 23,1% et BI à 25,6% au 21 juin 2023. En outre, la ministre des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que la position de la roupie restait stable malgré la flambée des taux d'intérêt de référence aux États-Unis. En fait, la valeur de la roupie a tendance à s'apprécier. Selon Sri Mulyani, cela illustre la confiance, les perceptions de l'économie indonésienne soutenue par des politiques budgétaires et monétaires prudentes étant une bonne combinaison pour maintenir l'économie indonésienne et être perçu positivement par les investisseurs. Non seulement l'Indonésie, mais le flux de capitaux étrangers vers d'autres pays en développement reste également fort. Selon elle, le flux total de capitaux étrangers vers les pays en développement devrait atteindre 10,4 milliards de dollars américains en mai 2023, avec des détails sur les flux de capitaux étrangers vers le marché boursier de 6,9 milliards de dollars américains et vers le marché obligataire de 3,5 milliards de dollars américains. C'est auditeur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mata pun tak lagi mau menetes. Alasannya sering
kali ku dengar alasan yang sering kali kau ucap. Kau dengannya seakan ku tak tahu sandiwara apa yang telah kau lakukan kepadaku. Sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas telah berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Mungkin ini jalan yang engkau mau. Mungkin ini jalan yang kau inginkan. Kau dengannya seakan ku tak tahu sandiwara apa. Ceritanya
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, où que vous alliez, il y a toujours des objets à rapporter comme souvenirs typiques de la ville. Garut ne fait pas exception. La ville surnommée Suisse Van Java possède également une variété de produits économiques créatifs typiques, voire mondiaux. Les produits créatifs qui font la fierté du peuple de Garut comprennent le cuir transformé et l'artisanat. Non seulement uniques et ont une valeur artistique, ces produits sont également exclusifs car ils ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs. Le premier endroit que vous devez visiter lorsque vous êtes à Garut est le centre d'artisanat du cuir de Sukaregang, connu depuis 1920 comme un paradis pour les amateurs des produits artisanaux en cuir. Situé le long de la rue Ahmad Yani jusqu'à la rue Gagak Lumayung, le centre d'artisanat de cuir de Sukaregang est ouvert tous les jours de 8h à 18h heure locale. Les produits vendus ici sont une collection de toute la production des artisans de cuir dispersés dans toute la région de Garut. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent l'artisanat à base de vétiver qui est généralement transformé en huiles essentielles et divers produits de beauté, à Garut, vous trouverez du vétiver transformé en divers objets artisanaux tels que des tapis de prière, des porte-clés, des sacs, des nappes, des peintures qui peuvent embellir les décorations de la maison. L'utilisation du vétiver comme ingrédient de base pour ce produit est unique et n'existe qu'à Garut. Outre l'artisanat du vétiver, Garut possède également son propre tissu typique. Nous savons que presque toutes les régions d'Indonésie ont des tissus traditionnels ainsi que de Garut comme batik écrit de Garutan RM. Comme le batik dans d'autres régions, le batik écrit Garutan RM est également une culture qui a été héritée de génération en génération et qui a survécu jusqu'à ce jour. La particularité de ce batik est qu'il a une couleur de base jaune ivoire et bleu avec une variété de beaux motifs, entre autres, le batik livre à vie, les cigares, les pierres, paung kibing et plumes de poulet. Il n'y a pas lieu de douter de la qualité car elle a été reconnue sur la scène mondiale, dont le Canada. Chers auditeurs, outre l'artisanat de cuir, le batik et le vétiver, Garut est également célèbre pour ses collations dodol, aliments fabriqués à partir des principaux ingrédients tels que la farine de riz gluant et le sucre de palme. Actuellement, les types de dodol servis sont variés. Il existe des types de dodol aux dattes, des dodol au chocolat et des dodol aux fruits. En dehors de cela, Garut est également connu pour ses attractions naturelles telles que le cratère Kamojang, le pic Derajat, le lac Changkuang, le lac Bagendit et le tourisme de Desrus Shoot. Garut se situe en effet non loin de la ville de Bandung, la capitale de la province de Java Occidental. La distance entre Bandung et Garut est d'environ 70 km au sud-est et prend environ 2 heures avec l'accès à la route à pied Trans-Java. Il rend la ville de Garut encore plus facile à atteindre et à visiter. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Hati ini padamu hancur sudah.
Charge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Situs Kota Pertambangan Paling Tua di Asia Tenggara. Situs Kota Pertambangan Paling Tua di Asia Tenggara. Le plus ancien site de la ville minière de l'Asie du Sud-Est. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. Situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. Le plus ancien site de la ville minière d'Asie du Sud-Est. Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et une guide touristique du site de la mine de charbon d'Ombilin. La guide touristique informe que la mine de charbon d'Ombilin est la plus ancienne ville minière d'Asie du Sud-Est. Bonne écoute.
Tambang batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara.
Kapan situs ini dibangun?
Situs ini mulai dibangun pada tahun 1888.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulé Situs Kota Pertambangan Paling Tua di Asia Tenggara. Situs Kota Pertambangan Paling Tua di Asia Tenggara. Le plus ancien site de la ville minière d'Asie du Sud-Est. Je viens prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Tambang batubara Ombilin. Tambang batubara Ombilin. Mine de charbon d'Ombilin. Merupakan. Merupakan et. Situs. Situs. Site. Kota pertambangan. Kota pertambangan, ville de charbon, paling tua, le plus vieux, di Asia Tenggara, en Asie du Sud-Est. Tambang batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. Tambang batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. La mine de charbon d'Ombilin est le site de la plus ancienne ville minière d'Asie du Sud-Est. Tahun 1888. Tahun 1888. L'année 1998. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la phrase Tambang Batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. Tambang batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara. La mine de charbon d'Ombilin est le site de plus ancienne ville minière d'Asie du Sud-Est. Dans ce discours, il y a l'expression paling tua, le plus ancien. Le mot paling, paling plus, est utilisé pour marquer une comparaison entre plus de deux choses ou objets. Dans ce discours, le mot paling, paling plus, suivi d'un adjectif à savoir « toi »,« toi ancien », pour comparer que le site de la site charbonnière d'Ombilin est le plus ancien parmi les autres sites de villes minières d'Asie du Sud-Est. Chers amis, allons, écoutons un autre exemple d'utilisation du mot « paling ». Paling, là ou le plus. Pour marquer une comparaison entre plus de deux choses ou choses. Paling besar, le plus grand. Danau Toba adalah danau paling besar di Sumatera. Danau Toba adalah danau paling besar di Sumatera. Le lac Toba est le plus grand lac de Sumatra. Paling luas, le plus étendu. Taman Nasional Kerinci Sebelat merupakan taman nasional paling luas di Sumatera. Taman Nasional Kerinci Sebelat merupakan taman nasional paling luas di Sumatera. Le parc national de Kerinci Sebelat est le plus grand parc national de Sumatra. Batubara ou charbon est un mot composé des mots batu, batu, pierre, et bara, bara, charbon. Sur la base de ses caractéristiques physiques, le mot bara, bara, charbon, peut être interprété comme une pierre brûlante, car il peut devenir un combustible après être passé par la combustion. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux. Écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Tambang batubara Ombilin merupakan situs kota pertambangan paling tua di Asia Tenggara.
Kapan situs ini dibangun?
Situs ini mulai dibangun pada tahun 1888.
Mon cher Jeter, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être très fidèle avec nous. Au revoir. Voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voix International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voice of Indonesia, la Voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicquiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Chers amis, c'était la 4e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 de 5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons la chanson de Sumatra Occidental, intitulée Larui Sanjo. Chers amis, la chanson Larui Sanjo a été composée par Hasbon Majid. Les paroles sont sous format de rimes et contiennent des mots figurés en langue minan. Larawi Sanjo raconte la détermination d'une femme à être fidèle à son amant. Mon cher Jouetard, voici une chanson de Sumatra occidentale intitulée Larawi Sanjo. Bonne écoute.
Dagang mbak urai ayam.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web, www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.